Salut à tous les AMG, salut à toute l'équipe de la base où j'y suis. Nous sommes le 21 janvier. Alors pour ceux à qui ça ne dit rien, le 21 janvier, en 1793, le 21 janvier, Louis XVI est monté sur l'échafaud. Simplement pour rappeler que un certain nombre de libres penseurs, tous les 21 janvier, festoient en mangeant de la tête de veau. Et surtout pour se rappeler, bon, pas forcément la terreur, mais du moins la révolution de 89, et se dire que, eh bien, il y a un certain nombre de bastilles à reprendre encore aujourd'hui, peut-être beaucoup plus qu'à l'époque, certainement un certain nombre de personnes à remettre à leur place, enfin, leur place n'étant pas forcément l'échafaud, je suis anti-peine de mort, mais quand même, voilà, bonne année 2009 à tous et à toutes, qu'elle soit aussi douce que la fin d'année 2008 en Grèce. Sauf pour le petit jeune qui est mort, bien sûr.
Bonjour, Daniel Mermet. Alors, j'appelle pour vous dire qu'une manifestation va avoir lieu le jeudi 22 contre le plan de licenciement qui se prépare au sein de votre maison à l'encontre du personnel de Radio France Internationale. J'ose espérer que vous y participerez, ou tout au moins que vous en parlerez, car je ne comprends pas votre silence, ni celui de toute la rédaction de Radio France à ce sujet. Je vous remercie. C'était Louise Gros-Danière.
Bonjour. Dites, je dois être un peu bête, parce que je ne comprends pas qu'avec les sous de l'État, on arrive à effacer les dettes des banques, mais qu'avec les mêmes sous de l'État, on n'arrive pas à effacer la dette publique, la dette de l'État. Attendez, je ne dois pas tout comprendre, là. Ben, c'est normal, j'ai peut-être pas fait Sciences Po, alors c'était pour ça.
Salut Daniel. Dis, c'est pas mal ce qui s'est passé hier à l'Assemblée avec nos camarades socialistes. Quand on les voit bouger, ça fait plaisir. On a assez gueulé dessus ces derniers temps, qu'ils étaient inexistants. Là, ils se remuent un petit peu, ils se remuent un peu le cul, c'est sympa, quoi. Hein? Alors on va les pousser un peu, on va les encourager. Parce qu'il y a encore du boulot. J'ai entendu le camarade Valls sur votre antenne là, ce matin, qui s'en prenait encore aux syndicalistes dans l'Essonne, dans la grève des transports. Alors il y a encore du boulot. Mais bon, hier c'était pas mal. Allez, salut.
Bonjour Daniel et bonjour toute l'équipe. Et monsieur Valls s'est offusqué ce matin au micro des France Inter. Puis à 13h au journal de France 2, disons que les droits des députés et les droits de la minorité ne sont pas respectés. Et lui, il a respecté la voix des Français lorsqu'on rejetait le traité constitutionnel européen? Est-ce qu'il a respecté la voix des Français, la décision des Français, lorsque ce traité a été maquillé pour le faire passer comme un traité de Lisbonne? Et que M. Sarkozy ait demandé aux députés de venir le prêter main forte pour écraser la volonté des Français, ils sont allés à Versailles comme des petits toutous, puisque l'on donnait les armes les plus mortifères contre nos libertés, contre l'économie, contre les avancées sociales de notre pays. Ça, ils sont capables de coopérer, pire, de collaborer. Et aujourd'hui, ils viennent demander le respect, qu'on respecte sa voix, puisqu'ils ont donné tout à la droite, tous les pouvoirs pour tout faire. Et maintenant, vient faire du simagré et demander le respect. J'espère que les socialistes ne vous mettront pas un seul candidat pour les prochaines élections européennes qui a été voté oui à cet été. Puisque non seulement personne votera pour eux, à gauche, des personnes comme moi vont faire une campagne contre eux. Parce que ce type de mensonge, on en a ras-le-bol. Et j'aimerais que quelques d'autres socialistes viennent à l'antenne, à France Inter ou à la télévision, à parler, et pas toujours M. Valls. Alexandre, je vous parle de Tarbes.
Ouais, salut Daniel et toute l'équipe, c'est Nono Denis à l'appareil. Bon, bah, c'était juste pour dire que ce soir, j'aurais envie de me sentir américain. Voilà. Et en tout cas, je suis très fier d'eux. Enfin, je vais pas en être fier. En tout cas, je suis très content pour eux. Et puis, j'ai des envies, parce que moi aussi, au lendemain d'une élection présidentielle, j'aimerais avoir quelqu'un qui donne confiance et qui ouvre la voie avec nous, comme le fait Obama avec son peuple. C'est malheureusement pas le sentiment qu'on a eu à l'issue de notre dernière élection présidentielle. Mais j'espère que ce sera le sentiment qu'on aura à la suite de notre prochaine élection présidentielle. Maintenant, ce qu'il faut oublier aussi, c'est qu'on a le président qu'on mérite. Voilà. Allez, ciao, ciao.
Voilà, Aretha Franklin. Vous avez vu comment elle interprétait ça. On devait chanter comme ça dans les champs de coton dans le temps.
Hein. Magnifique, hein. Magnifique. On devait chanter comme ça dans les champs de coton. Nous a informé Jean-Claude Narcy hier à l'issue de cette hymne chantée par Aretha Franklin. Et c'était effectivement d'abord une très bonne information, très précise. Mais c'était une très grande fête, une belle cérémonie d'investiture. Mais enfin, tout de même... Eh, hey, vous vous souvenez, nous, quand même, Place de la Concorde, c'était quand même assez grandiose. Ça, on a tous ça en mémoire. On n'a pas oublié, nous, les Français. Bon, ils ont Aretha Franklin. Eh ben, nous, on a Mireille Mathieu. Ils ont Pétziger. Eh ben, nous, on a Enrico Macias. Ils ont Springsteen. Eh ben, nous, on a Johnny Hallyday. C'était vraiment... Vous vous souvenez ou vous vous souvenez pas? Attendez, on remonte le temps, et voilà.
Mes chers amis, j'en ai vu dans ma carrière politique des victoires. Mais la victoire n'est belle que si elle est généreuse. La victoire, ce n'est pas la revanche. La victoire, c'est l'ouverture. La victoire, elle n'a de sens que si elle est celle de notre pays tout entier. Je serai le président de la République de tous les Français, sans exception.
Bravo, tu as gagné. Et moi, j'ai tout perdu.
Rien que du bleu, rien que du bleu.
Et puis, je veux dire à tous ces artistes qui ont eu le courage de me soutenir, je veux leur dire qu'ils ont eu le courage de résister à la pensée unique. Je suis fier d'être votre ami.
On va s'aider sur une étoile ou sur un oreiller. Au fond d'un train ou dans un tunnel.
Et voilà, on est toujours là.
C'est une chanson qui dit qu'on va mettre le paquet. Hein? Vous répétez après moi, c'est le refrain. Et à un moment, je dis, et on va mettre le P, et on va mettre le P, et on va mettre le A,
et on va mettre le
Q. Et on va mettre le Q. Ah, c'est pas mal. Hein?
Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous.
Comment elle interprétait ça? On devait chanter comme ça dans les champs de coton dans le temps. Hein,
ah, je pense que...
Non, c'est bien, c'est bien. Selon le Canard enchaîné, notre président de la République a déclaré « Nous ne serons pas trop de deux pour gérer les affaires du monde ». Voilà. Alors, on continue notre enquête sur lui-même. Ah, passionnante enquête que nous avons... retrouvé hier lui-même, le MEDEF, l'argent, où est passé l'argent, l'indignation de Laurence Parisot quand elle a appris qu'il y aurait peut-être, c'est pas sûr, quelques malversations, quelques malins qui s'en mettent jusque-là. Selon le quotidien économique Les Échos, les trois plus grandes banques françaises, BNP, Paribas, Société Générale et Crédit Agricole, vont dégager en 2008 autour de 9 petits milliards d'euros de profits, des résultats absolument sidérants, suffocants, et qui vont être versés sous forme de dividendes aux actionnaires. Et c'est pas facile d'expliquer aux citoyens français que l'État, c'est-à-dire eux, nous, les citoyens, venons de prêter 10,5 milliards d'euros à ces mêmes banques. Eh, c'est pas mal quand même, hein, ces affaires-là. Alors, d'où l'intérêt de savoir un peu comment fonctionne exactement lui-même, quelle est l'histoire de cette lui-même et d'avancer un petit peu dans ces ténèbres. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse J'y suis, au 01 56 40 37 37.
Jeudi 22 janvier 2009, à 19h, repère à la basse Si J'y suis, au poulailler de Bègle, en Gironde. Sur le thème de Tarnac à Marciac. Vous rappelez l'histoire de la fouille au collège de Marciac? De Tarnac à Marciac, nos libertés sont-elles en danger? Oui, je sais, la réponse est contenue dans la question. Ça n'empêche pas d'en débattre, n'est-ce pas? Nous espérons vivement que Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur, et M. Francis Hydrac, préfet de la Gironde, informés par leur service de cette réunion, voudront bien nous faire l'honneur de leur présence pour débattre avec nous, sans pour autant faire boucler le quartier par les fourgons de CRS. On peut apporter son casse-croûte.
Chers auditeurs, j'ai l'honneur et la joie de vous annoncer l'ouverture du premier café repère des Yvelines à Marly-le-Roi. Retrouvons-nous au bar-restaurant Le Fontenelle, situé au 30 rue Fontenelle à Marly-le-Roi, derrière la gare, près du marché, avec des parkings alentours, le samedi 31 janvier. Je répète, samedi 31 janvier à partir de 17h. Un professionnel de l'éducation nationale interviendra sur le thème « Enjeux d'une éducation vraiment nationale ». Votre contact, c'est moi, Martine, sur la messagerie repère Marly, tout attaché, @gmail.com. À bientôt.
Bonjour, c'est Gilda de Quilombo, la librairie militante à Paris. C'était pour dire que ce soir, mercredi 21 janvier, il y a François Ruffin, l'ami François Ruffin, du Monde Diplo et parfois de la Bassi J'y suis, qui passera parler de son bouquin « La guerre des classes ». La guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe des riches qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la remporter. Des propos de Warren Buffett, qui seront expliqués par François Ruffin, et qui présentera son bouquin. Donc c'est au 23 rue Voltaire, librairie Quilombo, dans le 11e à Paris, à 19h45, mercredi soir. À bientôt.
Oui, bonjour à toute l'équipe. Je suis Corinne et je tiens un bistrot, resto à Caen dans le 14. Je vous informe que nous lançons le premier repère là-bas si j'y suis, jeudi de cette semaine, le 22, à 20h30. Ce repère, pour la première fois, permettra de faire connaissance et d'expliquer un petit peu le fonctionnement et le principe. Il aura lieu ensuite tous les troisièmes jeudis de chaque mois, 20h30, 22h30. Ça se situe au 15 boulevard Leroy à Caen. Le nom de l'établissement est Le News. Le numéro de téléphone 02 31 34 95 28 et le mail Le News leniouz@wenadoo.fr. En vous remerciant, à très bientôt.
Après avoir exploré les bienfaits de la décroissance, nous allons ouvrir grand les portes des urgences. Jeudi soir à Vienne, dans l'Isère, c'est la troisième du repère de là-bas si j'y suis, avec pour thème réfléchir et débattre autour de l'hôpital. Avec la contribution du collectif unitaire de défense de l'hôpital public de Vienne, on parlera aussi du grand rendez-vous du 29 janvier. Ça se passe ce jeudi 22 janvier 2009 à 19h45, au Bougalou Bar,
on se marre,
1 place des Carmes, à l'angle de la rue Mermet.
Eh ouais.
Allez les AMG, on s'appelle,
on se fait un repère.
Salut, ciao, à jeudi.
Oh, bande de voyous.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Renaud Lambert, 8MM, fluidifions.
Flight number 2, arriving from...
Une caisse noire de plusieurs centaines de millions d'euros au sein de l'UIMM.
C'est démocratiquement extrêmement grave. Ils ont une caisse qui s'appelle l'EPIM, qui est censée être une caisse anti-grève. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que cette caisse noire est riche d'abord de 300 à 600 millions d'euros. Et on ne sait pas ce qu'ils en font.
C'est aussi quelque chose que probablement beaucoup savaient inconsciemment.
Madame Parizeau dit beaucoup savaient inconsciemment.
Inconsciemment.
Alors, il ne faut jamais oublier cette phrase. J'invite d'ailleurs de nombreux étudiants à se pencher sur le sujet pour faire des thèses sur le savoir inconscient collectif.
À quoi servait cet argent ?
Valise de billets pour acheter, selon lui, la paix sociale.
L'Union des industries métallurgiques et minières a été créée légalement en 1901 pour lutter contre la mise en place de la législation du travail.
Je crois qu'il est temps que l'UIMM passe à autre chose.
Donc pour vous, Laurence Parizeau ment.
Oui, sur ce point précis, à mon avis, elle ne dit pas la vérité.
Au sein du MEDEF, nous voulons travailler avec tout le monde et on ne veut plus regarder ce qui s'est passé. On veut en revanche construire l'avenir et regarder résolument devant.
L'enquête continue.
L'enquête continue dans la base. J'y suis avec Renaud Lambert aujourd'hui. Alors, bien évidemment que, à peine l'affaire a-t-elle éclaté, que DGS a tout de suite déclaré « J'ai procédé, comme mes prédécesseurs, à des remises de fonds représentant des organismes participant à la vie sociale de notre pays. » C'est ce qu'il a déclaré lors de sa garde à vue. Je répète, « J'ai procédé, comme mes prédécesseurs, à des remises de fonds représentant des organismes participant à la vie sociale de notre pays. » Évidemment, vous comprenez, les organismes participant à la vie sociale de notre pays, ça ne peut être que les syndicats. Eh bien, on va pas en parler, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'intéresser à d'autres destinations probables et possibles de ces fonds. Il y a la classe politique qui a été visée, qui peut être visée, en tout cas par ces fonds. Et puis, il y a également les médias. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait pensable lorsqu'on songe que depuis 107 ans, et ça dure depuis 107 ans, cette UIMM, au sein de ce MEDEF, qui ne s'est pas toujours appelé comme ça, eh ben fait tout pour défendre ses intérêts par tous les moyens. Parfois, l'idéologie passe un petit peu devant, comme on va le voir, la lutte contre le bolchevisme et contre le communisme. Mais enfin, toujours, jusqu'à un certain point, d'abord, les intérêts. Et c'est remarquablement bien organisé, c'est particulièrement bien cohérent et bien fait depuis longtemps, puisque, il faut le rappeler, ça a tenu 107 ans. Ça tiendra encore combien de temps ? Mystère, l'enquête continue.
Un jour, tout sera à toi. Les usines, les machines, les hommes. Mais sache qu'au moment de décider, tu seras seul. Tu ne pourras pas compter sur eux. Leur intérêt n'est pas le tien. Tous ces gens qui travailleront pour toi sont là pour exécuter, pas pour penser. S'ils se mettaient à penser, ils commenceraient à vouloir changer les choses. Et ça n'est pas dans leurs compétences. N'oublie jamais qu'ils te doivent tout.
Il y a différentes façons de diriger une entreprise. En voici une. Heureusement, il y en a d'autres.
J'anime le groupement des professions de service qui regroupe l'ensemble des professions de service qui sont réunis au sein du MEDEF.
Vous êtes membre du bureau du MEDEF aussi ?
Oui, bureau, conseil exécutif, bien sûr.
Alors là, on est juste dans l'entrée du bâtiment du MEDEF, dans le 7e arrondissement. Est-ce que vous pouvez m'aider à décrire un petit peu ce bâtiment ?
Ce bâtiment a été reconstruit concomitamment à la rénovation voulue par Ernest-Antoine Sellière, en transformant le CNPF, Centre National du Patronat Français, ça voulait en dire long, en mouvement des entreprises. Donc on voit tout de suite qu'on change de niveau, des entreprises de France. Donc ce que vous voyez ici, c'est un bâtiment beaucoup plus ouvert, transparent, qui correspond d'ailleurs à une nouvelle façon de voir les choses.
On a de grandes baies vitrées, beaucoup de verre.
Absolument. Alors que dans le Centre National du Patronat, c'était plutôt une grande institution, une grande maison, un peu fermée sur elle-même. Voilà.
Voilà. Mais c'est fini, cette institution fermée, rigide aujourd'hui. On nous l'a dit et redit hier, tout ça, et on nous le redit et aujourd'hui. Georges Drouin, président du GPS lui-même, qui vous cause, vous présente, eh bien voilà, c'est de plein pied maintenant, c'est transparent, on n'a plus de secret, il faut moderniser, il faut la jouer gagnant-gagnant, la lutte de classe, tout ça c'est terminé, on est tous ensemble, mais il y a quand même une mémoire, il y a quand même un passé que Georges Drouin évoque.
On comprend très bien qu'à l'époque, le patronat ait eu un œil à aider les salariés pour, dans un régime de protection sociale. C'était parfaitement normal. Et qu'en 1945, les communistes étaient arrivés au pouvoir, donc le patronat a une grande frousse des syndicats dits révolutionnaires. Je rappelle qu'à l'époque, la CFDT était cataloguée dans les syndicats révolutionnaires. Et donc les autres syndicats, c'est-à-dire CFTC, FO et CGC, ont été considérés comme des syndicats réformistes. Bon. Et donc, naturellement, on préférait signer avec des syndicats dits réformistes qu'avec des syndicats révolutionnaires. Alors le paysage a changé, la CGT change, la CFDT est devenue réformiste. On voit bien que tout ce monde-là est en train de changer.
Effervescence dans le monde du travail. Les usines Renault, qui emploient quelque 30 000 ouvriers, se sont mises en grève. Commencée dans quelques ateliers, la grève s'étendait peu à peu à l'usine entière. La CGT décidait alors d'appuyer le mouvement. Et la grève des usines Renault, devenue la question du jour, mettait en cause l'existence même du gouvernement. Les ministres communistes se désolidarisaient de leurs collègues. Et M. Ramadier, après s'être fait confirmer la confiance de l'Assemblée, transformait son équipe.
Donc en fait, la transparence, elle est possible aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de syndicats révolutionnaires.
En tout cas, on n'est plus dans la lutte des classes telle qu'on la pratique. On est dans une logique où on doit jouer gagnant-gagnant. Vous ne pouvez pas avoir dans une entreprise des salariés mécontents qui iront satisfaire des clients. C'est pas jouable. Si vous voulez avoir des clients satisfaits, vous êtes obligé d'avoir des salariés qui sont relativement satisfaits de leur entreprise. D'ailleurs, ne nous y trompons pas, quand on fait des sondages en général, on dit que les salariés de l'entreprise sont satisfaits de leur entreprise. La leur, mais pas globalement de l'entreprise en général.
Oui, je ne vais pas vous apprendre que la France a ce privilège d'être le pays, un des pays au monde où l'économie de marché a la pire réputation.
Oui, c'est possible. Mais
c'est un sondage de l'Université de Maryland datant de 2004, si je ne me trompe pas.
Mais c'est parce que on est sur des vieux schémas, sur de l'idéologie, et c'est la même chose d'ailleurs vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du capitalisme, qui malheureusement nécessite de faire une réforme de la pédagogie, à commencer par l'école. Ça commence là.
Mais oui, pédagogie pour réconcilier les Français, les tout petits Français, les tout petites Françaises avec l'entreprise. C'est la pédagogie, c'est le pragmatisme. Alors, celui qui a fait surgir le scandale, c'est Éric de Couty, journaliste au Figaro, en septembre 2007. Je rappelle un petit peu ce qui s'est passé. On a découvert alors que depuis des années, lui-même dispose d'une caisse anti-grève dite EPIM, E-P-I-M, Entraide Professionnelle des Métiers de la Métallurgie, créée à la suite des événements de 1968. Il y a eu beaucoup de mouvements, de grèves, de revendications, etc. Et le petit monde fraternel de l'entreprise, du patronat, s'est un peu inquiété et les patrons se sont mis à cotiser dans cette Entraide Professionnelle des Métiers de la Métallurgie, qui a été créé donc en 1972, regroupant 1800 entreprises pour faire face à un conflit collectif du travail. Ça a très très bien marché, les cotisations sont arrivées, les PIM a indemnisé les entreprises qui étaient en butte assez énergumène, toujours en train de réclamer, mais petit à petit, bof, les revendications, les luttes et les grèves se sont amenuisées, si bien qu'il est resté un solde positif dans la caisse de l'EPIM. Et puis, comme c'est des gens qui connaissent assez la finance, malgré tout, eh bien, ils ont judicieusement placé cet argent, si bien que c'est arrivé à 600 millions d'euros. On ne sait pas très bien d'où ça vient. Enfin, on sait d'où ça vient, mais on ne sait pas très bien quelle est la légitimité de ces fonds, et puis qui en dispose et à qui ils sont attribués. C'est l'objet de l'instruction actuelle. La question est, effectivement, qui revient tout le temps, c'est à qui, puisqu'il s'agit du lobbying, à qui ces fonds ont-ils été attribués? Alors, indépendamment des soutiens aux entreprises affectées par les mouvements sociaux. Éric Decouty, ancien du Figaro et aujourd'hui à Marianne, à l'hebdomadaire Marianne, nous éclaire sur le financement.
Alors, vous nous parlez de financement possible de syndicats, possible de parlementaires. Dans le dernier numéro de mars 2007 de Marianne, vous faites un entretien avec une personne qui étaye un petit peu ses suspicions.
Alors, si vous permettez, ouais. Deux choses. D'une part, sur le financement de syndicats, je vous dirais, c'est le patronat qui l'a dit. Et globalement, le patronat de l'UMM a pris cet argument, a présenté cet argument comme un argument de défense, et la presse, dans son intégralité, et probablement moi aussi, hein, mais en tous les cas, les médias ont fait de cet argument de défense une réalité d'enquête judiciaire. Donc, il faut peut-être être beaucoup plus pondéré sur le financement syndical. Deuxièmement, la piste du financement politique. On a démontré, en reprenant des débats publics, que depuis 2000, il y avait toute une série d'amendements qui étaient proposés par l'UMM et défendus par des parlementaires. Je ne parle pas d'argent, je dis simplement que, je vais vous prendre un exemple, il y a un député qui vit à l'Assemblée nationale en 2000, je crois que c'est en 2002, et il propose un amendement. Et le ministre des Affaires sociales de l'époque, qui est François Fillon, qui dit, écoutez, monsieur le député, il faut arrêter, on va retirer cet amendement parce qu'il est trop favorable à l'UMM. Et ça, c'est dans les minutes de l'Assemblée nationale. Et on découvre que à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, il y a tout un tas de textes qui sont vendus, promus par le patronat de la métallurgie et ensuite portés par des parlementaires.
Ce que vous suggérez là, c'est que c'est peut-être pas uniquement la force de conviction des propositions de l'UMM qui ont permis à ces propositions d'amendement d'arriver jusqu'à l'hémicycle.
Alors, ça c'est la deuxième étape. Première étape, encore une fois. Alors, eux, ils disent c'est du lobbying. On a vu une lettre de M. Gauthier, du lobbying tout à fait transparent. Premièrement, il n'est pas tout à fait transparent, pas aussi transparent que ça. Et deuxièmement, c'est quand même troublant. C'est d'autant plus troublant, et là on va arriver à l'entretien qu'on a produit, c'est qu'il y a au moins un exemple. Enfin, il y a un exemple connu et incontesté, d'amendements au Sénat en 2004, qui en ont, c'est pas des textes qui ont été proposés par lui-même, les amendements avec l'entête du Sénat, avec la bonne calligraphie, étaient rédigés par lui-même, elle-même.
Ils ont même le papier en tête du Sénat, quoi.
Ils avaient, les amendements tels qu'ils ont été produits avaient l'entête du Sénat, la bonne calligraphie, la bonne mise en page, etc. Ça a été révélé en 2004, à l'époque c'est passé totalement inaperçu, mais c'est extrêmement troublant. Et nous avons recueilli le témoignage d'un collaborateur de Monsieur Jacques Pelletier, sénateur, ancien ministre de Raymond Barre et de Jacques Chirac, qui m'a expliqué que ces amendements-là avaient fait l'objet de contreparties financières. Voilà. Ce qu'on soupçonnait tous depuis des mois est dit. Sauf que, et c'est la question fondamentale, si la justice déjà se donne les mots, a envie de travailler, mais le problème qu'elle va rencontrer, c'est celui de la traçabilité des fonds, parce que autant de l'argent qui est déposé sur des comptes laisse des traces, autant de l'argent liquide de la main à la main, c'est compliqué. Donc la vraie question pour la justice, si elle daigne faire son travail, ce qui pour l'instant je ne suis pas totalement convaincu, c'est que l'argent liquide, il va falloir le prouver. Et on peut savoir des choses et être dans l'incapacité de le prouver.
Alors quand même, c'est assez lourd, hein, des amendements, des contreparties financières, des parlementaires qui seraient des porteurs. Le Canard Enchaîné les avait même appelés des mères porteuses. C'est quand même, on n'est plus dans le lobbying, on est dans la corruption. À moins que le lobbying ne soit que de la corruption, ce qui n'est pas du tout impossible. Voyons ce que dit un parlementaire, Monsieur Jean Charbonnel, président de la commission des finances à l'Assemblée au début des années 70, ministre de l'Industrie de 1972 à 1974, qui est sorti du gouvernement suite à l'affaire Lippe, et qui nous apporte quelques précisions et son témoignage sur ces amendements.
Encore un petit point de détail.
Si nous parlons d'abord du problème des amendements, là je ne le ferai pas comme homme du gouvernement, ancien membre du gouvernement, mais comme président de la Commission des Finances. C'est à ce titre, et c'était une des fonctions d'ailleurs de la Commission des Finances, de voir passer par ses services tous les amendements de nos collègues parlementaires ayant des incidences financières. Et c'est surtout en séance de la Commission qui m'est en effet arrivé de voir parvenir à la commission des amendements, des projets d'amendements que tel ou tel de nos collègues déposaient et dont j'avais le sentiment que ces amendements défendaient des intérêts particuliers. Et nous avions même quelques collègues de la commission des finances dont nous avions l'impression qu'ils étaient, j'allais dire, un petit peu spécialisés dans la confection ou la retransmission d'amendements ayant cet objet. Et je n'ai pas de doute, je n'ai jamais eu de doute, que certains groupes de pression, hein, qui pouvaient d'ailleurs ne pas être le patronat, ça pouvait être, disons, des syndicats agricoles, étaient derrière ces amendements et qui m'a semblé c'était inacceptable avec la dignité des représentants du suffrage universel.
Voilà, l'enquête continue, mais on aimerait quand même que tout ça soit clair, porté au grand jour et à la connaissance des citoyens que nous sommes. Un autre témoignage sur les méthodes et les pressions de l'UIMM, c'est le témoignage de M. Joseph Pinard, député PS de Besançon, conseiller général du Doubs de 73 à 2001, agrégé d'histoire et qui nous apporte les précisions que voici.
Joseph Pinard, vous avez été député de 80 à 86, vous avez aussi été conseiller général du quartier des Lippes à Besançon pendant le conflit de Lippes, vous allez nous en dire plus. Et selon vous, il existe des preuves de l'implication de l'UMM dans le financement de certaines campagnes politiques?
Oui, absolument. Des campagnes ont été financées par l'UMM, notamment en 1973 et en 1974. Et il s'agissait à l'époque d'aider massivement des publications qui tentaient d'affoler l'opinion contre les risques de l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. C'était le cas en 74. Alors, par exemple, il y a eu la diffusion d'un fac-similé de François sur le titre France Matin, hein, alors qui annonçait que si Mitterrand était élu, eh bien, il y aurait tout de suite l'annonce d'un rationnement du kilo de sucre, un litre d'huile, 10 litres d'essence, etc. Alors, il y a eu plusieurs publications de cet mouvement, de cette nature, et elles avaient en commun d'avoir comme directeur de publication un certain Lemonnier, que l'on retrouve dans toutes les officines anticommunistes, qu'il s'agisse de l'Institut d'Histoire Sociale, qu'il s'agisse de ce qu'on appelle l'ALEPS, l'Association pour la Liberté Économique et le Progrès Social, ou qu'il s'agisse de l'Institut Supérieur du Travail, qui après 1968 se chargeait de former les cadres d'entreprise contre les syndicats contestataires, c'est-à-dire essentiellement contre la CGT, contre la CFDT. Alors de même, l'UMM a édité, alors là directement, hein, un journal qui a été diffusé massivement dans toute la France pour tenter de caricaturer les ouvriers de chez Lip, l'usine, la fameuse usine d'horlogerie de Besançon pendant le conflit. Il y a eu, ça s'appelait Lip la Lune, et il y a eu une édition qui provenait directement de l'UMM, et puis il y a une autre édition qui a été diffusée non moins massivement et qui provenait de la fameuse ALEP, Association pour la Liberté Économique et le Progrès Social, dont Armel tirait les ficelles. Armel, c'était le cerveau, la cheville ouvrière de toutes ces officines anticommunistes et antisyndicales.
Bonsoir. Brusque tension chez Lip. Bruno Albin était sur place et il a recueilli quelques échos sonores de cette manifestation.
15 août 1973.
Il faut préciser tout de suite que ce ne sont pas les ouvriers de Lip qui ont organisé cette manifestation, mais des jeunes gens casqués et armés de cocktails Molotov, peut-être des gauchistes.
La grande peur des bisontins, c'est la présence des gauchistes. Leurs organisations ont fait un gros battage autour de cette marche, ils seront nombreux. Une bonne partie de la ville est inquiète. Une psychose de peur s'est installée, alimentée par les bruits de toutes sortes et entretenue sur les murs de la ville par des affiches jaunes où une anonyme majorité silencieuse affirme que des hordes révolutionnaires veulent tout mettre à sac. Le président de l'Union commerciale, M. Rognon, a donné des consignes.
On va conseiller aux commerçants qui sont sur le passage du cortège, par le fait, si on peut appeler ça un cortège, qui ferment leur boutique à mesure que ça avancera, pour ne pas inciter les gens à entrer dans les boutiques, on ne sait jamais. Tous les commerçants sont inquiets parce qu'on ne sait pas comment ça se passera.
Voilà, ça c'est une archive donc de août 1973. Dans quelle mesure ces témoignages et ces opinions ont été travaillés par ceux qui s'étaient mis au service de lui-même et de son idéologie, comme ce l'aumônier alias Armel, Joseph Pinard.
Alors, ce monsieur Armel, est-ce que vous pouvez nous le présenter un petit peu? Parce que c'était quelqu'un qui avait eu un rôle assez, assez particulier pendant l'occupation allemande.
On le retrouve dans le parti de DA, le Rassemblement National Populaire. Et alors, à ce moment-là, enfin, c'est assez effarant de voir ce qu'il écrit. Par exemple, après l'échec de l'attentat contre Hitler le 20 juillet 1944, alors là, je le cite, hein, la force réelle de la Wehrmacht reste intacte, elle sera multipliée encore par la mobilisation totale du Reich, et l'on peut s'attendre à de grandes initiatives. Et il est le co-rédacteur d'un éditorial du 29 juillet 1944, dans lequel on peut lire « Quand ils ont appris au soir du 20 juillet qu'Adolf Hitler avait échappé à un attentat, après quelques instants de surprise et de terreur, à la pensée du malheur effroyable qui avait failli s'abattre sur l'Europe, tous les révolutionnaires ont éprouvé un immense soulagement et senti monter en eux un renouveau d'espoir. » Alors, bien entendu, il a été épuré en 1944, puis il a été amnistié, et puis il a été embauché par ces officines anticommunistes qui entretenaient des relations étroites avec la fraction du patronat qui avait peur de la puissance du PC, de la CGT et de la CFTC de l'époque, et qui craignait une sorte de coup de Prague. Hein. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a eu des relations étroites entre ces officines du type Institut d'Histoire Sociale, qui d'ailleurs se donnait une vitrine universitaire, hein, et puis des milieux patronaux qui étaient affolés, hein, par l'idée qu'il y avait des forces de subversion et qu'il fallait les combattre.
Et donc l'une de ces officines, l'ALEPS, l'Association pour la Liberté Économique et le Progrès Social, fondée par ce monsieur Armel que vous venez de nous décrire, personnage en tout point charmant, eh bien cette officine fêtait son 40e anniversaire en décembre 2006.
Et alors... Oui, alors le 12 décembre 2006, dans les locaux de l'UMM région parisienne, à Neuilly,
Il y a eu une petite
fête, hein, pour célébrer le 40e anniversaire de cette officine. Et alors, entre autres présents, il y avait Alain Madelin.
Un ancien Occident, un groupe d'extrême droite.
Un ancien Occident qui est passé par ces officines, hein, qui a changé d'idée depuis. Hein. Et puis, il y avait aussi, ex-qualité de député, M. Hervé Novelli, qui est aujourd'hui au sein du gouvernement, qui est secrétaire d'État aux entreprises, hein, et d'après le compte-rendu qui est diffusé par la LEPS, eh bien, à l'occasion de ces petites festivités, Alain Madelin et Hervé Novelli ont rendu hommage à Armel, qu'ils ont qualifié, je cite, de père spirituel. Alors, au passage, je pense qu'il faut noter que M. Hervé Novelli a été chargé de mission à la Chambre syndicale de la sidérurgie de 1977 à 1986. Or, la Chambre syndicale de la sidérurgie, à l'époque, c'était un des fleurons de l'UMM. Hein. Alors moi, je me pose je me dis, comment se fait-il que personne ne demande à M. Novelli ce qu'il sait du fonctionnement interne de l'UMM, alors qu'il en fut l'un des chargés de mission?
Eh bien, on va le faire.
Très bien.
Bienvenue au ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi, ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique.
Oui, allô?
Oui, bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Bonjour, je vous appelle pour solliciter un entretien avec monsieur Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé des entreprises.
Oui.
Je vous explique pourquoi.
Oui.
Oui, voilà. Donc on est en train de, on fait le constat que bon, les Français ont besoin de retrouver confiance en leurs entreprises, que le contexte actuel est peu propice à cela, et que c'est pas ça qui va nous aider dans la croissance. Et donc on mène l'enquête nous concernant l'affaire de l'UMM pour essayer de faire le jour sur ce qui s'est passé, comment ça fonctionnait, pour aider les Français à mieux comprendre et donc à retrouver la confiance. Et on s'est aperçu que monsieur Hervé Novelli avait été chargé de mission dans une chambre syndicale de la sidérurgie liée à l'UMM, et qu'il avait été présent dans une filiale de l'UMM, dans un des locaux de l'UMM à Neuilly, pour célébrer les 40e anniversaire d'une structure elle-même très liée à l'UMM. Donc j'imagine qu'il a tout un tas de choses à nous dire sur le fonctionnement de l'UMM, sur son rôle, et puis même son implication à lui personnellement dans ces structures, parce qu'en fait l'une des officines est une officine d'extrême droite, donc je pense que ça intéressera beaucoup les Français de savoir un petit peu quel était son rôle.
D'accord. Donc ça serait pour vous-même, monsieur ?
Oui, exactement.
Alors, monsieur Renaud Lambert, LAMBERT ?
C'est ça.
Donc c'est France Inter ?
France Inter.
Ok, vos coordonnées téléphoniques, je vous prie. Ok, bah écoutez, nous allons lui transmettre le message et on le voit demain matin, donc il n'y a pas de problème.
Bon, hein. Parfait, j'attends votre appel alors.
Ok, merci, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir,
on attend l'appel. Ça ne devrait pas tarder maintenant. Alors, pour avoir encore quelques éclairages, nous tournons à nouveau vers Jean Charbonnel, président de la commission des finances de l'Assemblée au début des années 70, qui fut, je le rappelle, ministre de l'Industrie de 1972 à 1974. Jean Charbonnel.
En 1973, ça devait être en février 73, puisque c'était avant les élections de mars 73, je le voyais fréquemment, c'était normal, parce qu'il y avait des rapports, j'allais dire, institutionnels, arrivé dans mon bureau, qui m'avait souhaité me voir, pour une raison très personnelle, Monsieur François Serac, dirigeant du CNPF et de l'UIMM.
CNPF, c'est l'ancêtre du MEDEF.
L'ancêtre du MEDEF. À ce moment-là, il est dirigeant des deux. Bon. Et il est donc venu me dire, vous allez sans doute apprendre que deux unions patronales, celle du Nord et celle de la Haute-Vienne, avaient directement financé la campagne des législatives dans laquelle vous allez vous présenter, peut-être un mois à peu près avant le vote, et vous êtes candidat opposé au Parti Socialiste. Alors je tenais à ce que vous le sachiez. Je suppose, m'a dit François Serac, que ayant ou des communistes ou des socialistes, ils préfèrent financer ou aider au financement, du Parti Socialiste pour avoir des députés socialistes plutôt des députés communistes.
Alors voilà, bien sûr, le but c'est de défendre les intérêts, et là, quand il s'agit des intérêts, l'idéologie passe au second plan, mais on est quand même le lieu d'un affrontement entre des idées profondément ancrés. Et puis, eh ben oui, les intérêts. C'est-à-dire que quand on dit, on entend dans les manifs, de l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Dans les caisses du patronat, il y a aussi des casseroles. On retrouve Monsieur Pinard, Joseph Pinard, à Besançon.
Alors, pendant les législatives de 73, d'autres sources nous expliquent qu'au niveau local, l'UMM n'avait aucun problème à financer des candidats du Parti Socialiste contre des candidats du Parti Communiste. Et on s'aperçoit que réellement, l'objectif de l'UMM, c'était la lutte contre le communisme.
Il y avait une véritable obsession du communisme. Écoutez, il faut bien voir que ces rescapés de l'ultra-collaboration avaient la conviction qu'ils continuaient la croisade anti-bolchevique qui avait été lancé par Hitler en juin 1941. Et leur anticommunisme avait quelque chose d'obsessionnel et de fanatique. C'est quand même des gars qui devaient quand même de temps en temps avoir des cauchemars, qui ont pu craindre d'être flingués au moment de la libération. Et alors, ils ont, lorsqu'ils ont été épurés et qu'ils ont été embauchés par ces officines, c'était pour eux en quelque sorte une revanche, mais en même temps c'était la continuation d'un combat légitime qu'ils avaient entamé sous l'occupation. Ça légitimait ce qu'avait été leur action.
La Légion des volontaires français contre le bolchevisme s'est constituée. Sa première réunion a lieu au Vélodrome d'Hiver. L'exposé de Marcel Déat.
Même si demain, le salut de la France ne devait être confié qu'à l'effort privé, à l'effort volontaire des légionnaires. Je suis sûr que cela, vous l'accomplirez ensemble jusqu'au bout, et que la France sera sauvée.
Clémenti.
Ce n'est pas la France qui a été battue, ce n'est pas le peuple français, c'est la bande de salons, de juifs, de capitalistes qui nous dirigeaient.
Jacques Doriot.
La lutte qui est ouverte contre le bolchevisme doit se terminer par son écrasement. Sans l'écrasement du bolchevisme, pas d'Europe. Ce conflit nous intéresse en tant qu'Européens, mais il nous intéresse aussi en tant que Français. Disons-le tout net, si la France veut rester une puissance européenne et mondiale, si la France veut rester digne de l'Europe, il faut qu'elle se batte avec elle contre le bolchevisme. Il n'y a pas d'autre issue pour nous.
Des bureaux d'engagement ont été ouverts aussi bien en zone occupée qu'en zone non occupée. Le bolchevisme battu fera l'Europe unie.
Ah, la préhistoire de l'Europe à travers cette archive du 25 juillet 1941. Alors, on va revenir sur l'actualité, sur aujourd'hui, et sur l'un des rôles toujours exercés et assumés, et comment, par l'UIMM, c'était il y a très peu de temps, à Aulnay-sous-Bois.
Voilà plus d'un mois que ces salariés de Peugeot Citroën sont en grève. Une mobilisation aussi longue, le site d'Aulnay-sous-Bois n'en avait pas connu depuis plus de 20 ans et la détermination des grévistes ne faiblit pas. Ils sont près de 400 à suivre cette grève, soit 10% des salariés du site. Leur revendication, une augmentation de salaire de 300 euros, la retraite pour les plus de 55 ans et l'embauche d'une partie des 700 intérimaires du site. Des intérimaires qui, pour certains, ont rejoint les grévistes. Ils ne supportent plus leur précarité.
Donc on est tout près à côté du site Peugeot Citroën Aulnay, dans le centre commercial d'Aulnay-sous-Bois. Mohamed Kinich, délégué syndical Sud. J'ai fait la grève pendant 6 semaines en 2007, j'ai fait la grève en 2006 et j'ai fait la grève en 2005 pour défendre les intérêts des salariés.
Tableau de chasse dont vous êtes fier, hein ?
Je suis très fier d'avoir fait la grève et j'en ai d'autres à faire encore.
Et vous ?
Roger Gimenez, secrétaire du syndicat Sud Auto.
à Citroën Aulnay, là, bah, j'ai fait, comme mon collègue, j'ai fait la grève en 2005, 2004 et puis en 2007. Voilà.
Voilà, alors le salarié ne pense qu'à l'intérêt des salariés. Oui, il ne pense qu'à eux, il n'y en a que pour eux. Mais il est patron pendant ce temps-là, hein? Et l'entreprise, pendant que ces gens ne cherchent le travail, vont se promener, etc., eh bien, l'entreprise a des difficultés. Voilà à quoi sert lui-même, à permettre au patron de rester droit dans ses bottes.
Par exemple, si on prend l'exemple du conflit du printemps dernier, il y a eu 6 semaines de grève, et puis la direction n'a rien lâché, rien du tout. Mais ils ont perdu, combien ils ont perdu? On peut estimer en gros en nombre de voitures?
En gros, Citroën a perdu sur 6 semaines donc 1300 véhicules par jour, multiplié par en moyenne 15 000 euros un véhicule. C'est beaucoup d'argent.
Comment ils font pour faire face à ces pertes-là?
Je pense qu'il y a la grève, la caisse anti-grève de l'UMM a servi aussi pour financer, pour donner en tout cas de l'argent à PSA pour compenser la perte. Citroën est la plus grosse entreprise du 93. Je pense qu'elle cotise beaucoup à l'UMM, donc je pense qu'elle a fait tout pour récupérer son argent.
Mais bon, tout ça, c'est des scénarios que vous échafaudez, parce que bon, bah voilà, ça fait combien de temps que vous travaillez à PSA?
Oh, ça fait 10 ans.
10 ans. Combien de temps vous êtes syndicaliste?
Depuis toujours, depuis 10 ans.
10 ans. Donc voilà, vous avez une petite idée de comment ça fonctionne. Mais si je vous demandais de mettre sur la table un papier, voilà, avec un chèque signé Denis Gauthier-Sauvagnac ou bien la direction de PSA, vous auriez du mal.
Non, on ne peut pas avoir ces documents-là, c'est sûr. Ouais. Oh, je pense qu'ils ne vont pas laisser des traces. Pas ce type de traces, en tout cas.
Ben si. Le mardi 8 avril, le journal du dimanche, dans un papier de Mélodie Proust, indiquait l'affaire de l'UIMM commence à s'éclaircir. Le constructeur automobile Peugeot PSA a reconnu lundi avoir touché 550 000 euros de la caisse patronale après une grève de 6 semaines en 2007 dans son usine d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Un rebondissement dans l'affaire Denis Gauthier-Sauvagnac, ex-patron de la Fédération patronale de la métallurgie, mis en examen pour abus de confiance. Donc, nous rappelons nos deux syndicalistes.
Alors depuis, donc on a appris par les journaux donc que la caisse noire de l'UMM a servi à Peugeot Citroën Aulnay, puisque Peugeot Citroën Aulnay a touché un chèque de 550 000 euros le 6 juillet 2007. Nous, ce qu'on savait, mais bon, on est un peu touché par cette information-là, et on s'y dit en tout cas que s'il n'y avait pas la caisse noire de l'UMM qui a servi à PSA, PSA aurait quand même lâché quelque chose sur les salaires. Sauf que cette caisse noire a permis de casser la grève. Payer peut-être des permanents syndicaux, d'autres organisations syndicales qui n'ont pas participé dans le mouvement, peut-être les gens qui sont venus de Rennes, à payer les hôtels, à payer les casse-croûtes.
Les gens de Rennes, c'est des gens qui sont venus pour travailler à la place des grévistes. Hein,
à la place des grévistes, donc ils n'ont pas le droit. Sauf que Citroën s'est permis de le faire et de payer, bien sûr.
C'est quoi le point de vue d'un syndicaliste? Normalement, la grève fait partie des moyens d'action légitimes lorsqu'on est en désaccord avec le patronat, on déclenche une grève et puis voilà, on négocie. Ça, c'est ce qui est normalement le fonctionnement normal de la démocratie sociale, quoi.
Tout à fait.
Comment on perçoit ça quand on est syndicaliste dans une entreprise où on voit que ce rapport de force est biaisé par de l'argent noir, de l'argent sale?
Malheureusement, je ne pense pas que PSA soit tout seul dans ce cas-là. Je crois que beaucoup d'entreprises utilisent ces moyens-là. Et on est juste consterné d'entendre et d'apprendre ces magouilles entre direction d'un gros groupe qui se dit à la pointe des relations sociales et qui derrière essaie de casser un mouvement légitime, très légitime même, des salariés.
Passionnant, c'était un reportage de Renaud Lambert, merci à Benoît Colombat, Renaud Museau, Jean Charbonnel, Daniel Fraboulet, Eric Decouty, merci également à Mohamed Kemich, à Roger Finez, à Arnaud Delaunay, Joseph Pinard, merci également Gérard Filoche, les caisses noires du patronat, c'est de Gérard Filoche aux éditions Jean-Claude Gavzevitch, et quand les patrons s'organisent, de Daniel Fraboulet, c'est aux éditions Septentrion, toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission pendant 24 heures et faire des commentaires. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org à la technique. Aujourd'hui, Antoine Viossa et Christian Thibaudeau, Koye Nguyen et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission à Cité 2, Charlotte Perry. Quant à Agnès Le Bot, chef du répondeur, elle attend vos messages. Au répondeur de la Bassie, j'y suis, dont le numéro est le 01 56 40 37 37. Et quant au film documentaire Chomsky et compagnie, il tourne un peu partout en France. Et pour savoir où, vous allez sur le site là-bas.org ou bien directement sur le site du film Chomsky et compagnie qui vous dira tout et qui vous donnera toutes les précisions. Réclame.